Bon mercredi soir, bienvenue à la Végémission. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Laurence, Xavier et Gabriel, trois étudiants et étudiantes en médecine. Bonjour.
Salut.
Bon, merci d'être avec moi ce soir. En fait, ces trois personnes-là ont approché l'association VG de l'UDS il y a cela quelques mois déjà pour nous parler d'un projet qui leur tenait à cœur, mais qui avait aussi un certain lien avec nous. Donc, premièrement, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre projet.
Je peux commencer. Donc, moi, c'est Marie-Laurence. Je suis étudiante en deuxième année de médecine maintenant. Puis justement, avec mes collègues, là, on a décidé de partir une initiative qui s'appelle le GIN. Puis je vais leur laisser, dans le fond, se présenter un petit peu puis vous expliquer ça.
Ben oui. Moi, c'est Xavier. Je suis aussi un étudiant en deuxième année en médecine. Puis... dans le fond, on a remarqué, il y a, je pense dans le coin d'octobre, novembre, que dans nos cours de médecine, il semblait avoir comme des lacunes au niveau de l'apprentissage de tout ce qui est nutrition, l'alimentation, bien que ça peut être quelque chose de quand même important là, dans notre prise en charge des patients. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait aborder là, auprès des autres étudiants. Puis aussi, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur là, en tant que végétarien, végétalien.
C'est ça, parce que vous êtes toutes végé-végane ici.
Exactement. Oui,
depuis longtemps ou?
Moi, personnellement, Gabriel, ça fait 2 ans que je suis végétalien. Mais en fait, pratiquement 2 ans, là, ça fait un petit peu plus d'un an et demi.
Ton anniversaire s'en vient bien.
Exact.
Ton végé anniversaire.
Moi, ça va faire 7 ans et demi, je pense.
Ok, ça fait longtemps.
Ouais, ça fait un petit bout quand même.
Wow. Puis toi aussi.
Moi, je suis le bébé, là. Ça va être mon végé anniversaire dans 2 mois, à peu près.
Dans 2 mois. Wow. Ouais. Ben, félicitations pour ça. Et je voulais savoir, en fait, là, en médecine, dans vos cours, est-ce qu'ils vous parlent des alimentations et de l'alimentation végétale ou.
Et si je peux me proposer là-dessus, c'est certain qu'on nous apprend quand même des connaissances en matière d'alimentation, là, parce que c'est essentiel aussi. Bien qu'on ait, les médecins ne sont pas des nutritionnistes, il nous faut quand même une certaine base pour émettre les recommandations appropriées aux patients. Là. Mais, par exemple, dans un cours là, qui se nommait la guidance anticipatoire, par exemple, avec l'enfant, mais c'est sûr que c'est important d'avoir des bases alimentaires. Fait qu'on nous enseignait différentes connaissances là, en lien avec le guide alimentaire canadien. Puis on apprend aussi le lien entre l'alimentation et différentes maladies comme le cancer colorectal, les lithiases là aussi, c'est-à-dire les pierres qui peuvent se former au niveau des reins, par exemple. Mais on trouvait tout de même que c'était beaucoup de surface, tu sais. Il y avait beaucoup de méconnaissances en discutant avec nos collègues. Là, des fois, on se rend compte qu'on pourrait enrichir davantage ce savoir-là puis pour dire les bonnes choses aux patients. Parce que, je vais donner un exemple, mais des mythes selon lesquels il faut absolument manger de la viande rouge, par exemple, pour obtenir son fer ou absolument boire du lait de vache pour obtenir son calcium. C'est des mythes qu'on entend souvent, même dans le monde médical.
Ben, j'ai l'impression aussi, je ne sais pas si vos professeurs, c'est tous des médecins de formation, mais j'ai surtout remarqué là, moi-même en allant voir des médecins qu'il n'y avait pas les formations actuelles. Donc, pour eux, ils ont toujours gardé la mentalité de justement qu'il fallait de la viande, alors que pourtant, notre société change, mais eux, ils gardent tout le temps cette mentalité-là. Je ne sais pas, j'imagine que les cours ne sont pas tout le temps renouvelés. Ou...
Ben, j'ai l'impression, peut-être pour des médecins plus âgés, c'est un peu moins ancré dans leur culture. Là. Nous, on a l'avantage quand même d'être jeunes. T'sais, le mouvement de végétarien, tout ça, il grandit avec nous un peu. Fait que c'est quelque chose auquel on va être vraiment plus exposé, mais pas tant en fait dans notre curriculum. Fait que pas tant dans nos cours. Ça va vraiment être de nos démarches personnelles qu'on va apprendre à plus en connaître, puis on va apprendre à tous les effets bénéfiques au niveau de la santé. C'est vraiment de par nos démarches personnelles qu'on a appris ça, puis c'est frustrant parce que en faisant nos démarches personnelles, en allant étudier en regarder des études, tout ça, ben on comprend que ça a vraiment une pertinence au niveau médical, là. Ça a plein d'effets bénéfiques, mais c'est juste pas tant discuté dans nos cours. Donc là, c'est d'où la raison de faire une initiative comme ça, d'aller mettre peut-être un peu plus de pression au niveau de la faculté pour qu'ils l'enseignent plus dans les cours, mais également faire de la sensibilisation au niveau de la communauté étudiante.
Oui, parce que vous, dans vos études, vous avez vu que ça avait un apport direct entre l'alimentation végétale et éviter les risques de maladies, dans le fond. Et puis, je pense qu'en tant que futur médecin, on peut quand même vous donner une certaine crédibilité dans vos recherches. Donc, est-ce que vous êtes pas mal les seuls de votre programme? Est-ce que vous êtes quand même une bonne partie des étudiants et étudiantes qui sont VG ou...
Honnêtement, on n'a pas nécessairement fait de sondage ou quoi que ce soit pour tester à savoir s'il y avait une grande proportion là, de la communauté étudiante qui l'était. Mais c'est sûr que là, on a parti la page Facebook du GIN. Donc, on peut quand même sonder, voir qu'il y a déjà de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas nécessairement uniquement là, au niveau de l'alimentation végétale, mais un intérêt quand même à en savoir plus parce que je rebondirai un peu sur l'anecdote que tu nous as mentionnée, mais justement, le médecin se trouve souvent un peu en première ligne, un peu à répondre à cette question-là de son patient. T'sais, on lui dit « Ah, c'est important de bien manger pour votre santé. » Puis il dit « Mais qu'est-ce que je dois manger? » Puis des fois, on n'a même pas la bonne réponse. Puis je pense que c'est un peu là qu'on essaie de se positionner là, au niveau du GIN.
Je pense que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent les médecins, ils vont dire, ils vont recommander le guide alimentaire canadien, mais sans même être formés tant que ça sur comment le donner, comment en concret, là, comment on éduque les patients sur suivre le guide alimentaire canadien, qui, quand on regarde le guide alimentaire canadien, il ressemble beaucoup à une alimentation végétarienne, tu sais, à base de plantes.
Oui, parce qu'il a changé récemment, non? Ils ont enlevé plus la viande, je crois? Ou...
En ce moment, si je ne me trompe pas, le guide alimentaire canadien, il est divisé, fait que la moitié, c'est fruits et légumes. Un quart, ça va être des produits à grains entiers. Fait qu'on parle de quinoa, de riz, des céréales, des trucs comme ça. L'autre moitié, l'autre quart qui reste, ça va être des protéines. Puis là, ils mettent vraiment en petit comme des morceaux de viande, mais ça y inclut aussi tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est produit à base
protéines
de soja, comme le tofu, tout ça. Fait que quand on le regarde en tant que tel, le guide alimentaire canadien, il ressemble à une assiette à base de plantes. Sauf que les médecins, ben, ils vont juste dire... suivi le guide alimentaire canadien, mais en concret, les patients, souvent, ils vont avoir besoin de trucs, de recettes pour les guider. Puis ça aussi, c'est pas tant, on l'apprend pas tant dans nos cours, là.
Oui, j'ai peut-être aussi l'impression que les médecins et les nutritionnistes n'ont pas assez équipe. J'ai l'impression que quand moi, en tout cas, j'étais voir mon médecin et que je lui dis que j'étais végétarienne, elle m'a même pas dit qu'il fallait que je prenne la B12, qui est comme le premier nutriment qu'un végétarien doit prendre. Et puis, elle avait aucune recommandation de nutritionniste à me donner. Mais pourtant, si elle n'est pas capable de m'aider dans ça, il faut au moins que quelqu'un m'aide parce que c'est pas toujours évident de devenir végé par soi-même. C'est important quand même d'avoir quelqu'un qui nous aide à bien manger justement pour être sûr de rien manquer. Fait que j'ai peut-être l'impression qu'il devrait peut-être avoir un meilleur travail d'équipe entre les médecins et les nutritionnistes.
Oui, absolument. Puis je pense que c'est important d'accompagner les patients à travers ce changement alimentaire-là parce que, veut, veut pas, ça peut être assez confrontant. Surtout, on remarque chez une population qui est plus âgée, qui a une habitude qui date depuis longtemps, mais ça peut être difficile de la changer là, parce que quand ça fait longtemps qu'on fait quelque chose au quotidien, ben ça peut être... c'est ça, plus difficile de la changer. Mm-hmm. Enfin, c'est important d'accompagner le patient là-dedans. Puis comme Xavier disait, ben, de lui fournir des astuces pratico-pratiques puis de vulgariser aussi les données scientifiques probantes là, qui sont dans la littérature. Là, pas juste lui dire de consulter le guide alimentaire canadien puis s'arranger avec ça, mais tu sais, vraiment lui expliquer comment ça fonctionne.
Te donner des méthodes, là, des vrais moyens pour y arriver. Et puis là, dans le fond, je me demandais, là, c'est quoi le GIN pour quelqu'un qui c'est la première fois qu'il y en a dans ça là, aujourd'hui?
Ben, je peux peut-être commencer juste par GIN, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est groupe d'intérêt en nutrition. Donc, justement, c'est un groupe qui se veut assez large un peu dans ses missions quand même, là, que, un peu comme on vient de parler depuis le début, là, que ça soit des astuces au niveau pratico-pratique, de la vulgarisation, mais aussi de faire une banque de données. C'est un aspect important quand même là, de ce qu'on veut faire. Puis cette banque de données-là, dans le fond, ça va être des données probantes là, qui supportent une alimentation à base de plantes. Donc, ça, c'est une grande partie du projet. Il y a aussi de faire pas juste de la vulgarisation pour le grand public, mais aussi pour les étudiants, que ce soit dans tous les domaines de la santé, parce qu'on juge que c'est important aussi que si on veut transmettre une information de qualité, il faut l'avoir reçue à un moment donné de quelque part quand même.
Donc, vous voulez vraiment créer un style de banque de données où est-ce qu'il y aurait plein de ressources pour toutes les gens qui veulent s'informer sur le mode d'alimentation végétale?
Ça, c'est une chose, la banque de données. Par contre, pour les personnes qui ont moins un passé ou des connaissances en matière de recherche, là, ça peut être difficile des fois d'interpréter les études. Donc, la banque de données est surtout là pour les personnes qui sont plus calées, si on veut, en recherche là, ou qui veulent vraiment aller aux sources directes. Mais on va surtout se servir de cette banque-là, de cette recherche documentaire-là pour créer du contenu qui est le fun, tu sais, pour les gens qu'on peut présenter puis que les gens vont bien comprendre, qu'on peut vulgariser. Puis ça, on va le faire à travers du contenu, par exemple, sur Facebook, mais également à travers certaines activités. Je ne sais pas si Xavier, tu veux nous parler des activités qu'on pourrait faire?
Oui, c'est sûr. On, on va essayer pour s'engager avec la communauté étudiante, essayer de mieux la sensibiliser, tu sais, organiser des conférences en invitant des nutritionnistes ou des médecins là, qui sont calés dans le sujet, dans le but justement d'aller chercher un peu l'intérêt des étudiants. Parce que peut-être que si ça vient de nous, il va peut-être avoir plus une hésitation là, à venir faire confiance à juste des étudiants en médecine. Fait qu'avoir vraiment des professionnels dans le domaine qui viennent présenter de l'information, ça rend ça un peu plus, ça vient peut-être un peu plus chercher la communauté étudiante. Puis c'était aussi important, je pense que c'est Marie qui en a parlé tantôt, de pas seulement aller faire la sensibilisation au niveau des étudiants en médecine, mais également la faire au niveau de toute la communauté étudiante de l'Université de Sherbrooke, parce que les effets bénéfiques pour la santé des individus, ben ça peut être autant à notre âge, tu sais, à 20 ans, il peut en avoir des effets bénéfiques là, sur notre santé, qui ne sont pas juste la prévention de maladies dans 20, 30, 40 ans, tu sais, c'est pas juste la prévention pour du diabète, d'hypertension, des trucs comme ça. Ça peut vraiment avoir des effets pertinents aujourd'hui pour les étudiants. Fait que c'est un peu sensibilisé par rapport à ces effets bénéfiques-là. Là.
C'est vraiment bien. Et aussi, c'est le fait que c'est pas juste, mettons, les étudiantes en médecine qui s'intéressent à l'alimentation végétale, mais toutes sortes de personnes. Puis c'est sûr que vous avez des connaissances qu'un étudiant ou une étudiante autre qu'en médecine n'a pas. Mais c'est super intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Et c'est plus défendable aussi là, de te dire « je suis végétarien ou végétarienne », mais aussi pour aspect de la santé, puis c'est des études qui sont, c'est prouvé, en fait, là. C'est surtout ça, je pense, qu'on a de la misère des fois à faire réaliser aux gens, c'est que c'est prouvé que c'est une bonne alimentation, puis que c'est pas juste un régime ou une diète de passage qui va nous nuire sur le long terme, là.
Puis si je pouvais rajouter aussi, on n'est pas là pour dire que l'alimentation végétalienne est pertinente pour tout le monde non plus. Fait qu'on reconnaît qu'il y a des situations, par exemple, des personnes qui peuvent être plus dans des milieux précaires, là, à bas statut socio-économique, qui peuvent avoir plus de difficultés d'accès à certains fruits et légumes, par exemple, ben pour eux, c'est sûr ça va être plus difficile d'adopter cette diète-là. Sinon, il y a également des problèmes de santé mentale, fait que, en lien avec l'alimentation, si je pense à l'anorexie, ben c'est peut-être pas la meilleure idée pour quelqu'un d'anorexique de se lancer sur une diète qui va être, que l'on veut ou non, restrictive, tu sais. Fait que il y a certaines situations quand même particulière où une diète végétalienne ou à base de plantes ne serait peut-être pas optimale pour ces personnes-là, puis si on le reconnaît. Par contre, pour la majorité des personnes, il y aurait quand même une pertinence à adopter une alimentation où on met plus de légumes, plus de fruits.
C'est ça, de réduire au moins sa consommation de viande au final.
Oui, puis Xavier m'a fait penser à quelque chose. Tu sais, souvent, quand on entend alimentation végétale, le végétarisme, le végétalisme, on pense à quelque chose qui est très restrictif.
Ouais.
Mais il faut savoir, moi aussi, hein, j'étais le premier à penser ça avant de devenir végétalien, mais il faut savoir qu'en fait, on découvre un nouveau monde alimentaire, où on découvre des nouveaux aliments ou même les aliments qu'on connaissait déjà, puis on apprend à les apprêter autrement. On découvre vraiment une nouvelle façon de cuisiner, là, finalement. Fait, c'est... Je dirais pas que c'est restrictif, au contraire, on ouvre un peu notre champ de vision là, pour adopter des habitudes de vie plus saines, puis découvrir une cuisine qui est le fun. T'sais.
Oui, puis en fait, je trouve pas ça pire que de cuisiner les mêmes animaux qu'on cuisine depuis tout le temps, là, qu'on cuisine du bœuf, du poulet, du porc ou de la teinte, mais c'est les quatre mêmes qu'on cuisine à chaque fois, mais on trouve des recettes différentes, fait que c'est la même chose, nous, avec notre tempeh de fûts légumineuses, etc. Même que je trouve qu'on a plus d'options de protéines qu'une personne qui ne se réduit qu'à la viande. Nous, on a beaucoup plus que 4 ou 5 choix, en fait. Là. Fait que je pense vraiment que c'est un préjugé qu'on a. Mais pourtant, il y a un moyen de manger différent tous les jours de l'année si on le souhaite. Là.
Ouais, puis certains peuvent penser aussi que ça va être restrictif dans le sens qu'ils vont perdre un peu les recettes familiales ou des choses comme ça. Mais moi, je trouve que c'est justement le contraire. T'sais. Avant de devenir végétarienne, j'avais jamais essayé de cuisiner les plats, par exemple, qui étaient cuisinés par ma grand-mère ou quoi que ce soit. Mais depuis que je le suis devenue, là, j'avais de l'intérêt à la place, dans le fond, d'essayer de leur donner une petite twist végétarienne. Puis je trouve que ça peut être juste encore plus le fun, dans le fond. Là. Puis d'apporter ça dans des plats traditionnels aussi qu'on connaît tous, ça peut être le fun là, d'essayer de les modifier.
J'ai jamais connu un repas avec la viande qui n'était pas capable d'être végétalisée. Là.
C'est en probablement fait, impossible.
Probablement impossible. Et en fait, Jean-Philippe le fait dans son livre Réconfort vegan. Là. Mm-hmm. Il a pas mal recuisiné toutes les recettes de notre enfance et très bien réussi. Sur ça, on va prendre une petite pause publicitaire. On va aller en musique avec Alex Burger et sa chanson Sweet Monterrey. Et on revient dans quelques instants.
partis chanter des chansons dans un village près de chez vous. Oh, les montagnes ne se prennent pas par la main et ça jase pas trop fort à son voisin. Ah non, ça jase des prix de gaz à tour de bras, à tour de bras. Où tourne café, crème ici et là. Les étés sont cruels et les criquets enterrent la nuit. Les hivers donnent envie d'avoir un peu de peine. Sweet, 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 sweet Montérégie. Ben ouais, ben ouais. Sweet, 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 sweet Montérégie. Que je me confesse, c'est ici que j'ai lâché l'école. C'est ici que j'ai brûlé mon auréole. Je te jure, tu peux me croire si je te raconte que tu peux tout voir à la commande à l'auto. Une bataille où tu
On va enchaîner avec Xavier qui va nous expliquer pourquoi que manger végétarien ou végétalien, c'est pas non plus un signe de santé.
Oui, dans le fond, être végétarien ou végétalien, ça veut juste dire qu'on ne mange pas de produits animaux. Mais c'est quand même possible de manger de la malbouffe végétalienne. Mm-hmm. Donc, si je pense à commander au IW un burger Beyond Meat, puis faire ça à tous les soirs avec mon side de frites, mon paquet de chips aussi avant de me coucher, tout ça, manger ça assez fréquemment, là, ça ne représente pas nécessairement une diète santé, même si elle va être à base de plantes, même si elle va être végétalienne. Donc, c'est important de dissocier les deux concepts. Quand on parle d'une diète à base de plantes, à produits entiers, tout ça, ça va vraiment être aller à l'épicerie, acheter nos fruits, nos légumes, nos légumineuses, nos produits à base de soya, tout ça, toutes les incorporer dans des recettes. Ça va résulter en une alimentation qui va être beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus diversifiée, où on va aller chercher tous nos nutriments nécessaires pour notre santé, dans le fond.
Mm-hmm. Dans le fond, manger, on expliquait ça dans une émission précédente, là, c'est les résonances vibratoires des aliments. Fait que dans le fond, manger le plus près de la terre possible, le moins de choses transformées, si souvent, qu'est-ce qui va être plus haut en énergie vibratoire, mais qu'est-ce qui va être aussi par le fait même meilleur pour notre santé. Okay. Puis aussi, en fait, tout ce qui se retrouve à l'épicerie là, pour les végés véganes, que ce soit de la fausse viande hachée, fausse boulette, fausse ci, fausse ça, ben c'est toutes des choses qu'on peut faire à la maison à base de légumineuses. Et c'est juste que c'est des fois plus facile de juste l'acheter frais fait puis de pas le faire. Là.
Quand on va le faire chez nous, souvent, un, ça va être meilleur, puis deux, ça va être plus santé. T'sais, il va avoir moins de sel, moins d'aliments transformés, vu que c'est toi qui les fais toi-même. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Moi, je trouve que les produits qui sont à l'épicerie de même, les burgers déjà faits à l'épicerie, les burgers végés, je trouve que c'est pratique pour aller dépanner. Là. Si je vais à un barbecue avec des amis, tout ça, bon, faut que je passe à l'épicerie rapidement. Mais c'est sûr que quand je suis chez moi puis je vais en faire, c'est le fun d'en faire aussi. Ça goûte bon. Tu sais, tu peux jouer avec tes épices, tout ça. Donc, c'est un peu une aventure aussi d'expérimenter avec tout ça.
Mm-hmm. Mais j'imagine que c'est comme tout, là, aussi autant en consommant des produits animaliers qu'en en consommant pas, si on mange plein de produits transformés puis qu'on prend des croquettes de poulet ou peu importe qui sont déjà faites à l'épicerie, ben, dans tous les cas, ça sera pas bon pour notre santé. Là. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est un défi qu'on a, qu'on soit végétarien ou végétalien ou carnivore, omnivore, peu importe. Là. Je pense que c'est un problème aussi. Et Gabrielle, tu voulais nous parler justement du fait que, bon, santé, ça rime aussi avec la société.
Ouais, c'est ça exactement. Quand on parle d'alimentation, souvent on pense à la santé de l'individu, donc à sa santé à soi ou à la santé d'une autre personne spécifiquement. Mais il faut savoir qu'il y a des impacts bien plus larges que ça. Les choix qu'on fait sur les étagères à l'épicerie, là, ça a des impacts sur la santé de la population au complet, sur la santé publique. Puis ça s'explique par le fait que l'industrie de la production animale, c'est une des industries la plus polluante sur la Terre en termes de déforestation, d'utilisation des terres, d'utilisation de l'eau, d'émissions de gaz à effet de serre, même les impacts aussi sur l'océan, l'acidification des océans, l'accumulation de déchets dans les océans, etc. Puis, l'environnement, c'est intimement lié à la santé publique. On sait notamment qu'il y a quelques centaines de milliers de cancers déclarés annuellement qui sont secondaires à la pollution atmosphérique. Fait qu'on voit que les choix qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais ça a des impacts sur la santé des autres aussi. Mm-hmm. Fait que je pense qu'on a quand même une certaine responsabilité sociale face à cet enjeu-là. Puis en plus de ça, si on laisse l'environnement de côté, mais il y a aussi la résistance antimicrobienne qui est un autre enjeu parce qu'on sait que 80% des antibiotiques utilisés au Canada en 2016, selon un rapport du MAPAC, étaient destinés à l'industrie de la production animale. Fait qu'il y en a 80%, c'est énorme. Ouais. Ça veut dire que ça nous en laisse seulement une mince partie qui sont utilisées chez les humains. Puis ce que ça fait, ça, quand on utilise trop d'antibiotiques, pas de la bonne façon, ben ça fait en sorte que il y a des bactéries qui viennent résistantes à ces médicaments-là. Mais certains des médicaments qu'on peut utiliser en production animale, ça peut être aussi des médicaments qu'on utilise chez l'humain. Fait que quand ces bactéries-là, après ça, se transmettent chez l'humain, elles sont comme résistantes à nos moyens de traitement. Fait que là, ça engendre des coûts au niveau du système de santé. Puis, ça peut aussi causer des décès. Là, puis, il y a des maladies qui se manifestent de façon plus sévère. On sait notamment qu'en 2019, il y avait 700 000 décès dans le monde qui étaient secondaires aux maladies résistantes aux antibiotiques.
Quand même beaucoup.
C'est pas un enjeu à
Puis ça, c'est vraiment lié à notre consommation.
Ben, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut y avoir de la résistance antimicrobienne. Mais ce que je dis, c'est que l'industrie de la production animale en est une source quand même assez importante puisque la majorité des antibiotiques sont utilisés au sein de cette industrie-là. Dans le cadre du curriculum de formation médicale, on nous enseigne différents protocoles en milieu hospitalier et en milieu clinique pour faire une utilisation judicieuse des antibiotiques. Mais on ne nous dit pas, par exemple, que nos choix de consommation peuvent même avoir un impact plus important sur cet enjeu-là. T'sais. C'est quand même quelque chose à considérer. Puis là, par-dessus ça, s'ajoutent les zoonoses, les maladies qui proviennent des animaux. On pense à certains coronavirus, grippe aviaire, grippe porcine, l'influenza, etc. Là. Il y en a.
Oui, beaucoup de nos maladies internationales sont venues justement du fait qu'on consommait des produits animaliers, en fait. Là. Et je ne sais pas si vous pouvez me l'expliquer, mais quand on parle qu'on utilise, par exemple, un certain pourcentage d'antibiotiques dans l'élevage animal, c'est pourquoi, relié à quoi, c'est qu'est-ce qu'on utilise exactement et pourquoi?
Bien, c'est pour prévenir les maladies au sein des animaux, dans les fermes d'élevage, là, tout ça. Fait que, tu sais, sont tellement tassés toutes les uns contre les autres que c'est vraiment un milieu propice pour la propagation de bactéries, pour la propagation d'infections entre les animaux. Fait que comment les éleveurs vont décider de traiter ça, c'est en leur donnant des antibiotiques. Mais là, on parle d'antibiotiques, là, tu sais. Si on s'imagine qu'on est tous tassés dans une petite cage les uns contre les autres, ben il en faut pas mal d'antibiotiques, là, pour prévenir la propagation des bactéries. Fait que, d'où la raison pourquoi 80% de toutes les antibiotiques vendus au Canada vont être destinés vers l'industrie de l'élevage. Bien, en fait, c'est la surutilisation de ces antibiotiques-là qui peut mener après ça à la résistance au niveau des bactéries contre les antibiotiques. Donc, les bactéries vont survivre aux antibiotiques, ils vont devenir plus forts, ils vont devenir plus résistants. Puis après ça, ben, ces bactéries-là, s'ils se ramassent à infecter des humains, ben, on va avoir la difficulté à les traiter après ça, ces bactéries-là, mm-hmm. si quelqu'un se fait infecter par ce type de bactéries-là.
Fait que l'industrie de l'ion finance d'une manière l'industrie pharmaceutique de manière directe, quasiment. Là. C'est assez choquant là, de comprendre ça. J'imagine aussi qu'ils vous en parlent dans vos cours, mais on n'en parle pas ailleurs parce que c'est trop gros.
On n'en parle quasi pas dans nos cours. On parle surtout des protocoles pour éviter de surutiliser les antibiotiques au sein des patients. Donc, okay. exemple, si quelqu'un a une infection, un rhume ou de quoi, on ne veut pas lui donner un antibiotique parce que son problème, c'est un virus qui l'a infecté.
Mm-hmm.
Ton antibiotique, il ne va pas être capable de traiter un virus. Donc, il nous enseigne de faire vraiment attention à l'utilisation qu'on fait des antibiotiques parce qu'ils savent que les bactéries, les infections causées par ces bactéries-là résistantes aux antibiotiques, en 2017, je pense que la statistique, c'est ça a tué 750 000 personnes à peu près au monde, mais ça va être un problème tellement important là, qu'il y a des études qui prédisent qu'en 2050, ça va être plus de 10 millions de morts au niveau de l'échelle mondiale qui vont être causées par des infections résistantes aux antibiotiques. Puis là, on parle là, de 10 millions. En comparaison, je pense que c'est l'an dernier, il y a eu 9,7 millions de morts causées par le cancer. Fait que c'est vraiment non négligeable.
On va dépenser le nombre de morts du cancer, dans le fond, là, c'est quand même...
Le nombre de morts aujourd'hui du cancer. Oui,
c'est
ça. En 2050,
ouais, il va peut-être en avoir plus. Là.
Exact.
Mais c'est quand même très considérable. Si on parle autant du cancer, j'imagine qu'on va autant parler de ce problème-là. Je nous le souhaite, en fait. Là.
Mm-hmm. En fait, si je peux préciser une statistique qui a été dite, là, c'est quand Xavier avait bien raison de dire que ça pourrait atteindre 10 millions de morts en 2050 mm-hmm. concernant les maladies résistantes aux antibiotiques. Mais pour le cancer, selon les prévisions, on se situerait à 8,2 millions. Donc, on dépasserait vraiment les morts, les décès annuels reliés au cancer.
Puis est-ce qu'il y a une autre solution, vous pensez, que juste arrêter de consommer des produits animaliers?
Mais je pense que dans les hôpitaux puis en clinique, les médecins, les professionnels de la santé ont un rôle à jouer via la prescription judicieuse là, des antibiotiques. Mais c'est certain qu'une action concrète qu'on peut faire facilement, à laquelle toute la population finalement peut contribuer, mais c'est vraiment de faire des choix de consommation responsable en matière d'alimentation.
Mm-hmm. Et de juste consommer, en fait, si on, pour quelques raisons, comme Xavier l'a dit plus tôt, là, qu'on peut vraiment pas s'empêcher de manger de la viande, j'imagine que le boucher du coin traite quand même mieux ses animaux puis utilise moins de produits pharmaceutiques que les grandes industries.
C'est certain qu'au sein des élevages qui peuvent être plus petits, tu sais, l'utilisation des antibiotiques, c'est surtout au sein de l'élevage industriel, parce que comme Xavier dit, là, ils sont tous entassés, les animaux, c'est un milieu super propice à la propagation des maladies, fait qu'on utilise des antibiotiques. Mais il y a aussi l'aspect que certains antibiotiques peuvent être des facteurs, peuvent favoriser la croissance, là, fait que c'est finalement, il y a des intérêts économiques là, aussi derrière l'utilisation des antibiotiques. Là. Si ça prend moins de temps pour faire grandir un animal, puis ensuite le tuer, puis le vendre sur le marché, ben c'est sûr que c'est bénéfique au niveau de l'argent qu'on se met dans mm-hmm. nos poches, mais que l'industrie, en fait, se met dans nos poches.
Oui, on va avoir une part de profit. Mais bon, on revient, je pense, au même problème, le profit versus santé de la planète. Là. Je pense que c'est le problème en général qu'on a. Sur ce, on va conclure notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et si on veut voir là, vos projets, j'imagine que vous avez une page Facebook qui s'appelle GIN.
C'est le groupe d'intérêt en nutrition de l'UDS, là, ou le GIN de okay. l'UDS sur Facebook.
Super. Ben, on vous invite à aller regarder leur projet. À bientôt!